Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Après de brefs romans d'aspiration française, enfin raconter une histoire se déroulant en Russie. Une gageure, une histoire, une trilogie. Tant que la terre durera, le sac et la cendre, étranger sur la terre. Une saga familiale, et la famille n'est pas celle de l'auteur Henri Troya. Enfin, pas tout à fait, comme toujours. Henri Troya était l'invité de l'Université des Annales, salle Gaveau, à Paris, pour la série « Les auteurs et leurs livres ». Son livre « Tant que la terre durera ». Les grandes conférences, première diffusion sur la chaîne nationale, le 13 octobre 1952.
Mes amis, vétérans indiscutables de l'éloquence, l'un d'eux me dit « Vous n'avez pas le droit, mon cher, de vous dérober aux obligations que vous avez contractées par voie d'affiche et de presse. Le public vous pardonnera de paraître prétentieux, ridicule, bavard, mais non de tromper son attente. Vous avez promis de parler de « Tant que la terre durera », si vous parlez de la princesse de Clèves ou du père Goriot, croyez-moi, il y aura des réactions dans la salle. » Et pour m'encourager, il ajouta, en faisant une grimace de gourmandise affreuse, « Ne craignez pas d'être indiscret. Éclairez tous vos recoins, sortez toutes vos ficelles, montrez-vous nu, ils vous en sauront gré. » Je vais donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, essayer de me montrer nu devant vous. Il y a quelques mois, en rangeant de vieux papiers, j'ai découvert au fond d'un tiroir le journal intime que je tenais à l'âge de 13 ans. Parmi une avalanche de lamentations romantiques, inspirées par ma triste condition d'écolier, par l'incompréhension que les grandes personnes manifestaient à mon égard, par les preuves insuffisantes de l'existence de Dieu et par mon incapacité 20 fois démontrée de battre mon frère au tennis, quelques phrases toutes simples ont accroché mon regard. Je les cite sans en changer à un mot. « Ce soir, à table, après le dîner, papa et maman ont encore parlé de la Russie. Leurs souvenirs sont merveilleux, c'est dommage que je sois seul à les entendre. Quand je serai grand, j'essaierai de faire la connaissance d'un écrivain et de lui raconter tout cela pour qu'il en tire un livre. » Lorsque j'exprimais ce désir en 1924, je ne prévoyais guère que l'écrivain qui se présenterait sur ma route une quinzaine d'années plus tard, ne serait autre que moi-même. Tant que la terre durera, est née de cette rencontre entre un enfant chargé de souvenirs merveilleux et un homme faisant profession d'écrire. La conséquence naturelle de l'exil est de parer d'un charme extraordinaire le pays que l'on a quitté et où l'on ne peut plus revenir. Certes, pour ma part, étant arrivé à Paris vers l'âge de 8 ans, je n'avais gardé de la Russie que des images vagues et puériles. Mon père, ma mère, en revanche, avaient eu leur vie bouleversée, brisée par la révolution bolchévique. Installés en France, ils prenaient un amer plaisir à évoquer devant moi les délices d'un temps révolu et d'une patrie aux frontières closes. De leur passé, ils se rappelaient surtout les moments agréables. Toute la lie des soucis quotidiens, des obligations, des échecs, des fatigues, inséparables d'une destinée humaine, demeuraient au secret dans leur âme. Le crible de la mémoire ne laissait passer que les parcelles de la joie la plus rare, la plus pure. En les écoutant parler, j'imaginais une sorte de paradis perdu où la jeunesse était rieuse, la vieillesse exempte de maladies, la fortune facile et la neige propre. Combien de fois n'ai-je pas demandé à ma mère de me raconter son enfance? Sa famille habitait Ekaterinodar. Je connais chaque recoin de sa maison natale sans y avoir jamais mis le nez. Je sais la couleur des murs, la forme des meubles, les dimensions et l'éclairage des chambres. J'ai joué au cirque dans la grande cour entourée d'une palissade. J'ai pris le thé sous les vieux tilleuls. J'ai vécu la menace terrible du choléra en 1892. Cette année-là, bien que n'étant pas né, j'ai accompagné mon grand-père maternel, médecin municipal à la barbe blonde et au sourire charmant, dans les faubourgs de la Dubinka, où une population ouvrière misérable, éprouvée par la maladie, refusait de se laisser soigner et accusait les docteurs d'avoir empoisonné les puits. Mon grand-père se présenta seul devant la foule menaçante et ordonna de lui apporter un verre d'eau puisé dans l'une des fontaines que l'on disait polluée. Il but l'eau devant tout le monde pour témoigner de sa bonne foi, Les assistants, convaincus par ce geste téméraire, acceptèrent ensuite de le conduire auprès des moribonds et de suivre ses prescriptions avec fidélité. Par miracle, mon grand-père échappa à la contagion. Cette histoire avait le don de m'exalter au plus haut point. Mais j'aimais aussi entendre de ma mère des récits d'un caractère moins exceptionnel, moins glorieux, sur sa vie à l'école des jeunes filles d'Ekaterinodar, sur les promenades sentimentales dans le parc, sur les bals de province qu'un orchestre militaire animait d'un puissant vacarme de cuivre. Au signal des surveillantes, les jouvencelles en robe brune et tablier noir réglementaire se rangeaient par classe contre le mur. Les garçons du collège arrivaient ensuite, conduits deux à deux par leurs inspecteurs. Un ordre bref rompait les rangs et les danses commençaient, veillées par les portraits en pied de l'empereur et de l'impératrice. « Raconte encore, maman, comment étiez-vous coiffée et quelle danse dansait-on et jusqu'à quelle heure durait la fête ?» Je m'entends encore posant ces questions avec une curiosité jamais assouvie. Mon père, lui, me parlait de son enfance à Armavire, petite bourgade mi-circassienne, mi-arménienne, située dans les plaines du Kouban. Ses parents y possédaient de vastes comptoirs de draps où venaient s'approvisionner les habitants du village voisin et même des montagnards tcherkesses descendus de leurs lointains repères. Tous les commis étaient armés d'une mesure en bois pour débiter l'étoffe et d'un revolver pour se défendre contre les clients indélicats. Sur les terres du domaine paissaient de vastes troupeaux de chevaux sauvages que gardaient des cavaliers à bonnets de fourrure et à tuniques décorées de cartouches brillantes. Mon père, tout jeune encore, passait ses journées à cheval parmi eux et s'initiait au lancement du lasso et aux acrobaties équestres. Assise à la table familiale, dans un petit appartement banal de Paris, je comparais en pensée mon enfance sans éclat à cette autre enfance large, variée, insouciante. La suspension de la salle à manger versait un rond de lumière à la réunion de nos visages marqué par un même regret. Derrière le triste papier des murs, derrière les doubles rideaux fanés, je pouvais croire que la bourgade d'Armavir avait remplacé Paris, que la steppe luisait au clair de lune, que des cavaliers tcherkesses galopaient sur les routes sans fin. Le mariage de mes parents eut lieu à Armavir même. Pour donner plus d'éclat à la fête, mon père avait fait venir l'un des projecteurs qui avait servi lors du couronnement du tsar à Moscou. Ce projecteur, fixé à la façade de la maison, était alimenté directement par la petite centrale des comptoirs. Une foule compacte s'était massée sur le parcours prévu pour le cortège. Il faut vous dire que l'éclairage électrique était encore un luxe dans la région. Quand enfin, le soir venu, des flots de lumière éblouissante se déversèrent dans la rue, les chevaux prirent peur. Des montagnards au regard d'aigle invoquèrent la protection d'Allah. Quelques mendiants se jetèrent sur le sol comme pour cueillir des gouttes d'or dans le creux de leurs mains. Après la cérémonie religieuse, les banquets et les soupers se succédèrent pendant 5 jours. Le 5e jour, un de mes grands-oncles mourut de congestion et les fêtes furent arrêtées. Des wagons spéciaux avaient été prévus pour ramener chez eux les invités, dont certains habitaient à de grandes distances d'Armavir. Des wagons spéciaux. Ces seuls mots me plongeaient dans l'extase, moi qui me réjouissais chaque fois qu'il m'était possible de tromper la surveillance d'un contrôleur du métro pour me glisser dans une voiture de première classe. Et les dîners de jadis, les grands dîners de Russie, comme j'ai rêvé de vous, montagnes de caviar, cèpes marinées, raisins au vinaigre et au sucre, esturgeons fumés, baliques, cochons de lait au réfort, comme j'ai rêvé de vous en mastiquant le bœuf bouilli filandreux du lundi. Après leur mariage, mes parents vinrent s'installer à Moscou. Je suis né dans cette ville, mais ce que j'en ai connu directement se mêle dans mon esprit avec ce que j'en ai appris par la suite. Je revois aussi nettement ma chambre d'enfant, la flamme de la veilleuse devant l'icône, ma vieille nounou ridée et géniarde, que le vaste restaurant vitré du Strelnia, enfoui dans la neige, et plein de palmiers, de fontaines, de musique, de dîneurs en habits, d'officiers à la nuque raide et de dames au décolleté laiteux et aux coiffures semées de perles. Époque de faste et d'extravagance, dernier sourire un peu crispé avant la tempête. Bientôt, les courses en traîneau, les séances de patinage en plein air au son d'un orchestre tzigane, les réceptions mondaines, les soirées théâtrales, tout cela fut balayé par un coup de vent. La guerre, la révolution. À partir de ce moment-là, mes propres souvenirs prennent le pas sur ceux de mes parents. Je me rappelle notre excitation d'enfant à l'annonce des combats de rue. L'extraordinaire entrait dans notre vie et bouleversait les habitudes de la maison. Par crainte des éclats d'obus et des balles de mitrailleuse, on avait cloué des matelas aux fenêtres. Des amis de la famille venaient se réfugier chez nous et dormaient sur des paillasses rangées côte à côte. À la cuisine, tout le personnel s'affairait pour préparer des boissons chaudes et de la nourriture à l'intention des élèves de l'école militaire qui défendaient la ville contre les bolcheviks. Derrière les murs, on entendait des détonations, des cris, une agitation absurde et menaçante. Parfois, mon frère et moi, trompant la surveillance de la gouvernante, soulevions un matelas, jetions un coup d'œil dehors. Tournant le coin de la rue, des ombres grises avançaient, pas à pas, pliées en deux, le fusil à la main. « Ce sont des blancs, » disait mon frère, « ils vont attaquer les rouges par surprise. » Je me demandais si les rouges étaient vraiment rouges, comme des peaux rouges, par exemple. Ma gouvernante affirmait que non, mais elle était d'une Suissesse et n'avait aucune compétence dans les questions militaires. Dès que la fusillade cessait, le gardien de la maison, un Tcherkesse, se précipitait dans la rue et nous rapportait des balles de shrapnel dans le creux de sa main. « Elles sont encore tièdes, » disait-il en souriant d'une manière engageante. À ces mots, ma nounou se signait et invoquait une dizaine de saints intercesseurs, tandis que ma gouvernante déplorait d'avoir quitté Genève pour chercher du travail dans un pays de fous. Puis, subitement, les grandes personnes furent prises de panique. On ne parlait que de passeport, de laissez-passer, de routes interdites. Maman cousait des bijoux dans les doublures de ses manteaux. Un jour, il fallut quitter la maison, et ce fut la fuite, l'exode. Les wagons à bestiaux bondés d'hommes et de femmes aux faces hostiles, fichus sur la tête, bonnets de fourrure galeuse, odeurs de bottes, propos menaçants à l'égard des bourgeois. Nous nous taisions, nous nous tassions dans notre coin, soucieux avant toute chose de faire oublier notre présence. Au cours du voyage, le wagon où nous nous trouvions s'enflamma en pleine nuit. Des étincelles provenant des essieux mal graissés avaient mis le feu à la paille qui passait sous la porte. Pas de signal d'alarme. Certains voyageurs hurlaient comme des bêtes, d'autres s'agenouillaient, priaient en silence. La chaleur devenait intolérable. Ma mère, affolée, se précipita sur mon frère et saisit le petit sifflet qu'il portait comme garniture au col de son costume marin. Je la revois soufflant dans ce sifflet d'enfant, les joues gonflées, les yeux pleins d'épouvante. Un vacarme d'air et de fer battu couvrait cet appel lamentable. Par miracle, le train s'arrêta dans une petite gare et nous pûmes sauter sur la voie à travers un rideau de fumée. D'autres épreuves nous étaient réservées. Passage de ligne gardé par les Rouges, arrivée dans un camp de quarantaine organisé par les Allemands, épidémie de grippe espagnole, fuite en pleine nuit sur des télègues, émeute des matelots sur le bateau qui nous conduisait de Yalta aux rives du Caucase, et de nouveau les wagons à bestiaux, les visages soupçonneux, les interrogatoires, la fatigue, la faim, les maladies, les marchandages de toutes sortes. En 1920, toute notre famille, suivant la retraite des troupes blanches, embarquait à destination de Constantinople. Sur le pont du navire, mon frère et moi jouions à la guerre civile avec les autres enfants émigrés. Il était le général Denikine, j'étais le général Vrangel. Ce titre me comblait de joie, je ne comprenais pas que mes parents fussent insensibles à la distinction dont j'étais l'objet. L'exil, pour moi, c'était un changement de vie, et tout changement de vie à l'âge de 7 ans est une promesse de bonheur. De Constantinople, nous nous rendîmes à Venise et de Venise à Paris. Comme tous les émigrés, mes parents croyaient qu'ils resteraient en France 1 ou 2 ans à peine, le temps que le régime bolchevique s'écroule de lui-même et que l'armée blanche reconstituée achève la pacification du pays. La pensée de ce prompt retour les incitait à dépenser avec allégresse le peu d'argent qu'ils avaient pu tirer de la vente de leurs derniers bijoux. Avec les mois qui passaient, leur espoir baissa. Ils n'osaient pas encore avouer devant leurs enfants que seul un miracle pouvait les ramener en Russie. Mais je devinais leur tristesse. Je sentais que nous étions en France pour longtemps, pour toute notre vie peut-être. Et je n'étais pas autrement affecté par cette solution. Grâce aux leçons de ma gouvernante suissesse, en arrivant à Paris, je parlais le français aussi bien que le russe. Au lycée, je me liais facilement avec des garçons français de mon âge. Pourtant, je me sentais différent des autres par mes origines, par mon passé. Marqué aux couleurs d'un destin original, je ne voulais ni ne pouvais m'en défaire. Mes camarades ne changeaient pas de pays en sortant du lycée pour se rendre chez eux. Moi, en rentrant à la maison, je quittais la France pour me plonger dans la Russie. Je vivais la moitié du jour à Paris et la moitié du jour à Moscou. J'étais partagé entre le passé et le présent, sollicité tour à tour par des fantômes surannés et par des visages actuels, par une première patrie lointaine, inaccessible, fuyante, et par une seconde patrie qui bourdonnait autour de moi, me tirait à elle, m'emportait dans son tourbillon. Pendant longtemps, j'avançais tant bien que mal, un pied sur les nuages russes et l'autre sur la terre ferme française. Puis, l'équilibre se fit insensiblement entre ces deux séductions rivales. Je devins français tout en conservant une tendresse particulière pour la contrée perdue dont m'entretenaient mes parents. Mon admiration pour les grands écrivains russes me donna le désir d'écrire, mais d'écrire en français, puisque j'avais fait toutes mes études en France. Voilà. Je m'excuse d'avoir si longuement parlé de mes souvenirs. Ce faisant, je n'ai pourtant pas perdu de vue le sujet de cette conférence, car si je n'avais pas vécu les événements, les sentiments que je viens de vous relater, je n'aurais jamais pu entreprendre la rédaction de « Tant que la terre durera ». Bien qu'obsédé, dès mon plus jeune âge, par le souci de confier au papier cette réserve d'impressions personnelles ou familiales, je m'interdis de l'utiliser dans mes premiers livres par crainte de manquer du métier nécessaire à la mise en valeur de mon projet. Ainsi, d'année en année, je repoussais la tentation de livrer au public ce qui me tenait le plus à cœur. Je trichais avec mon désir essentiel. Même après avoir obtenu le prix Goncourt en 1938, je ne me sentis pas assez sûr de moi pour me lancer dans l'aventure. En effet, jusqu'à ce jour, chaque fois que je commençais à écrire un roman, je pouvais être sûr qu'il se trouverait bouclé en 300 pages dactylographiées. Cette distance immuable me paraissait imposée par la fatalité. J'étais enfermé dans un cadre, esclave d'une technique, captif d'un enchantement littéraire. Pourtant, en 1939, ayant résolu de composer la biographie de Dostoïevski, je fus entraîné, par mon propos même, à dépasser ma moyenne habituelle. Le livre achevé, je considérais avec stupeur la montagne de feuillets noircis qui reposait sur ma table. 600 pages, j'avais vaincu le charme, je pouvais faire long. Aussitôt, le besoin de mettre à profit le capital de mes expériences russes me saisit aux tripes avec plus de vigueur encore que jadis. Des amis me conseillèrent de rédiger un volume de souvenirs où les récits de mes parents se continueraient par mes récits personnels. Un travail de ce genre eût mis à contribution ma mémoire, mais eût laissé mon imagination en repos. Or, il est toujours difficile pour un romancier de renoncer au plaisir de jouer, de tromper son monde, bref, de mentir un peu. Tout homme de lettres tient à la fois du pilleur d'épaves et du marchand de masques. Pour la satisfaction de dresser une chronique familiale sincère, devais-je m'interdire de joindre à notre petit groupe des personnages inventés de toutes pièces, de pénétrer dans des milieux où aucun de mes modèles n'avait jamais mis les pieds, de susciter des intrigues amoureuses qui, s'ils les avaient vécues, auraient conduit mes parents au divorce dès le lendemain de leur mariage. Après mûre réflexion, je résolus d'opter pour un savant mélange de fiction et de réalité. Mes souvenirs ne seraient pas utilisés comme matériaux uniques de l'ouvrage, mais se trouverait noyé dans un ensemble où le faux côtoierait le vrai. Je demande pardon, aujourd'hui encore, à tous les membres de ma famille pour les mutilations cruelles que j'ai imposées à leur figure et à leur destin. En me lisant, ils se sont d'abord reconnus sous d'autres noms dans certains de mes héros, puis, subitement, se sont vus jeter la tête la première dans des passions, des scandales, des liaisons honteuses, alors que leur existence s'était écoulée sous le double signe de la vertu et de la discrétion. Entraîné par une inspiration funeste, l'auteur les avait, pour les besoins de la cause, nantis d'une femme infidèle, ou d'une mère illettrée et avare, ou d'une sœur tout juste bonne à faire la catin. Une grêle de vice et de malchance s'abattait sur la tribu. Personne n'était épargné. Et par l'effet d'une injustice que je ne m'explique pas encore, ceux que je traitais le plus durement devenaient les plus vivants, les plus sympathiques de mes compagnons de route. Ai-je besoin de vous avouer que, même après avoir décidé d'adopter la forme romanesque pour exploiter mon fonds de souvenirs, j'hésitais longtemps avant d'aborder le travail de rédaction proprement dit. L'ampleur, l'ambition du projet me terrifiaient, comme si devant moi se fût dressée une muraille infranchissable. Aurais-je la volonté, la patience nécessaire pour triompher de tous les obstacles? N'allais-je pas user mes forces dans une besogne si différente de celle que j'avais assumée jusqu'à ce jour en composant de brefs romans d'inspiration française? Le seul fait de raconter en français une histoire qui se déroulerait en Russie me paraissait devoir être une gageure. Pour me décider à sauter le pas, je jurais solennellement que, tout au long de mon récit, j'éviterais la couleur locale à bon marché. Ne pas écrire Isba pour maison et Izvoshik pour cocher, user avec ménagement du samovar et de la troïka, répudier le knout, le petit père et le barine et laisser le moujik n'être qu'un paysan, tel fut ma devise. Je n'ai pas la fatuité de croire que tous ceux qui m'écoutent ont lu les trois volumes de cet ouvrage, dont le premier, Tant que la terre durera, donne son titre à l'ensemble, et dont les deux suivants s'intitulent respectivement Le sac et la cendre et Étranger sur la terre. Aussi voudrais-je vous dire en quelques mots le thème de cette trilogie à laquelle j'ai travaillé pendant près de 10 ans. Ce thème, en vérité, est très simple. C'est l'histoire d'une famille russe et de son entourage, prise en 1888, au moment où les héros sont encore à la ligne de départ de leur existence. Ils grandissent, affirment leur caractère, lient des amitiés, tiennent ou déçoivent les promesses de leurs premières années, se marient, ont des enfants eux-mêmes et participent, chacun selon sa situation sociale et son inclination propre, aux événements de la guerre russo-japonaise, de la guerre de 1914, de la Révolution et de l'exil. Le cycle s'arrête en 1939, au moment où Michel et Tania, que l'on a connus tout enfant au début de Tant que la terre durera, voient leur fils Boris mobilisé dans l'armée française, quitter Paris par la gare de l'Est pour rejoindre son régiment. Ainsi, entre la première page de Tant que la terre durera et la dernière page d'Étranger sur la terre, 3 générations de personnages défilent sous les yeux du lecteur. Ces personnages issus d'une même cellule, je me suis efforcé de les lancer dans des directions aussi différentes que possible par un effet d'éclatement psychologique. L'un fréquente les milieux révolutionnaires, l'autre est un officier de carrière, un autre encore est un riche commerçant de Moscou. Pourtant, je me suis défendu de peindre la société russe dans toutes ses classes et tous ses mouvements. Mon ambition s'est bornée à représenter un groupe de cette société immense. Un groupe qui ne se situe ni dans le peuple, ni dans l'aristocratie, mais à mi-chemin entre ces deux extrêmes. Le groupe même auquel appartenaient mes parents, le seul, à mon avis, dont j'eusse le droit de parler, avec quelque chance de ne pas dire de sottise. On m'a demandé souvent quel était le personnage principal de mon roman. Je n'ai jamais varié dans ma réponse. Ce personnage, c'est le temps. Ce que j'ai tenté d'exprimer en quelques milliers de pages, c'est le recommencement des amours, des angoisses, des passions politiques, des erreurs, des joies et des peines d'une génération à l'autre. Chacun croit être le premier à vivre une expérience et il est le millième interprète d'un rôle vieux comme le monde. Une phrase qui sert d'épigraphe à ma trilogie résume mon idée directrice. Il s'agit d'une citation tirée de la Genèse. « Tant que la terre durera, les semailles et les moissons, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point de s'entre-suivre. » Fort de cet enseignement, j'ai voulu que la rumeur du temps qui s'écoule baignât tous les personnages de mon livre. J'ai voulu que le lecteur participât à la lente usure de leur âme et de leur chair, qu'il saisît la transformation à peine perceptible de leur caractère, de crise en crise, d'année en année, qu'il se sentît mûrir et vieillir avec eux sans secousse, régulièrement, inexorablement. Avant même d'avoir écrit la première phrase de « Tant que la terre durera », je m'étais posé comme principe que ce roman devait avoir le cours lent et large d'un fleuve en pays de plaine. Quelle serait la longueur approximative de ce récit? À combien de personnages ferais-je appel pour l'animer? De quels effets dramatiques me servirais-je pour tenir le lecteur en haleine? Je l'ignorais, je ne voulais pas le savoir. Alors que, Pour tous mes romans précédents, j'avais commencé par dresser un plan détaillé de l'action, chapitre par chapitre et presque paragraphe par paragraphe. Cette fois-ci, je refusais de me laisser enfermer dans un dessin préalable. Plus mon itinéraire serait indéterminé, et plus, me semblait-il, mes personnages auraient l'apparence hésitante et absurde de la vie. N'étant pas maître absolu de leur déplacement, je ne les gênerai pas dans leur démarche, je ne substituerai pas ma volonté à la leur, je les laisserai s'éloigner de moi. Certes, j'avais tout de même fixé un but, des haltes, des repères dans l'espace et dans le temps. Mais, entre ces points de sécurité, j'étais décidé à me laisser emporter, sinon par l'inspiration, c'est un bien grand mot, du moins par les hasards de la pensée et de l'écriture. Une autre règle à laquelle je m'étais juré d'obéir exigeait une impartialité absolue de l'auteur envers tous ses héros. Je crois fermement qu'en intervenant dans le cours du récit pour redresser le décor, commenter l'action, absoudre ou condamner les personnages, le romancier risque souvent de nuire par sa présence à l'effet d'envoûtement qu'il souhaite produire sur l'esprit du public. Subitement, le lecteur n'est plus seul en face des protagonistes. Quelqu'un tout saute à côté de lui, le tire par la manche et lui souffle ses impressions personnelles sur le sujet. De pareils fâcheux se rencontrent dans les salles de spectacle et des chutes irritées leur intiment l'ordre de se taire pour laisser la parole aux acteurs. Que de fois ai-je éprouvé l'envie de crier chute aux romanciers qui refusent de rester dans l'ombre. En ce qui concerne tant que la terre durera, cette loi de l'effacement devenait, à mon avis, une nécessité absolue. En effet, dans cet ouvrage, certains de mes héros sont des révolutionnaires de la première heure. D'autres sont partisans du régime tsariste. D'autres encore ne croient qu'à l'efficacité d'une monarchie constitutionnelle. Chacun est convaincu d'avoir raison. Chacun se bat, à sa manière, pour sa cause. Chacun est estimable pour cela seulement qu'il se donne tout entier à un idéal. J'aurais trahi mon devoir si j'avais pris parti dans un débat où je n'avais pas à intervenir. Mon propos n'était pas de dresser un réquisitoire contre telle ou telle fraction de la société russe, mais de faire vivre le plus intensément possible quelques individus imaginaires entraînés par la passion de la chose publique. Afin de les rendre plus plausibles, je me transportais en eux, je me mettais dans leur peau à la lettre, j'épousais tour à tour et avec une égale conviction les opinions politiques les plus opposées. Quand j'étais à Kim, l'officier de carrière, je haïssais avec lui les foules aveugles obéissant aux consignes des bolcheviks. Et quand j'étais Nicolas, le révolutionnaire, je tremblais d'amour avec lui pour le peuple opprimé, j'excusais avec lui le sang versé, les magasins pillés, les otages livrés aux bourreaux, puisque de toutes ces erreurs devait surgir une civilisation juste et heureuse. Tout être humain est attachant, émouvant, dès que l'on pénètre en lui profondément et qu'on se loge au centre de ses habitudes. Le plus terrible châtiment que Dieu pourrait m'infliger pour mes fautes serait de me condamner, en enfer, à juger éternellement mes semblables. Redoutant cette pénitence dans l'au-delà, vous pensez bien que je n'allais pas me l'imposer de mon vivant. Puisque nous en sommes à parler les personnages, je voudrais vous signaler le cas de l'un d'eux qui m'a joué plus d'un tour au cours de sa longue carrière. Il s'agit du dénommé Ivan Ivanovitch Kiziakov. Au début de mon livre, je ne l'avais pas prévu dans la distribution. Puis, au chapitre 3 de « Tant que la terre durera », j'éprouvais le besoin de donner un soupirant à la jeune et jolie Lyubov. Le nom de Kiziakov vint incidemment sous ma plume. Je ne pensais pas avoir à m'en servir davantage. Mais Lyubov était en âge de se marier. Quel parti allait-elle choisir ? Kiziakov, parbleu, je l'avais déjà nommé. J'avais dit qu'il avait un visage comme une courge et une barbe noire. Cette description, sommaire et désobligeante, me gênait un peu. Ne valait-il pas mieux changer la tête de mon bonhomme, le rajeunir, le faire maigrir, le raser de près, pour qu'il pût former un couple assorti avec la coquette Lyubov ? Non, tant pis pour eux. Ce mariage serait un mariage absurde, comme il y en a tant. Accepté comme mari, Kiziakov s'installa dans mon livre avec une outrecuidance désarmante. De silhouette épisodique, il se poussait lentement vers les premiers rôles. Un jour, j'eus à raconter la visite que lui fit son beau-père, Konstantin Kirillovitch Arapov. Mon intention était de traiter le passage en quelques lignes. Mais, dès que j'essayais d'imaginer la scène, je compris que Kizyakov ne se contenterait pas de cette portion congrue. Je le voyais, somnolent, écrasé de chaleur dans la véranda de sa maison. Effondré dans un fauteuil en rotin, il avait déboutonné le haut de sa culotte pour libérer la masse forte de son ventre et un journal déplié protégeait sa figure contre les moustiques. Seule sa barbe noire, épaisse, mouillée, dépassait le bord du papier. Des mouches se promenaient sur ses mains velues, il ronflait. Constantin Kirillovitch dut l'appeler en criant pour qu'il sortît de son sommeil et se dressa sur ses jambes. Ayant ainsi décrit le personnage, je me sentis tomber en son pouvoir. Ce pitre bedonnant était plus fort que moi. Il voulait parler, je n'avais qu'à le laisser faire. Après des préambules pâteux, le voici qui se lançait dans une discussion philosophique. « Pour moi, disait-il, j'ai compris qu'il fallait vivre à plein cœur, à pleine gueule, passez-moi le mot. Tout prendre, jouir de tout, se saouler de tout. Dieu nous a donné le monde pour que nous l'accommodions selon notre bon plaisir. La notion du mal existe, mais elle est très développée chez certains et chez d'autres, elle est à peine perceptible, à peine formée. Nous ne faisons le mal qu'au moment où nous sentons que nous faisons le mal. Si le déclic de la conscience ne joue pas, si le mécanisme est faussé ou usé, nous ne sommes plus responsables. Au regard de Dieu, l'innocence du cœur excuse la vilenie du geste. Dieu n'est sévère qu'à l'égard des initiés, les ignorants, les pourceaux peuvent compter sur son indulgence. Il faut donc devenir des ignorants et des pourceaux. » Ainsi s'exprimait Kizyakov. Ce discours, prononcé d'une voix avinée, devait commander tout l'avenir du bougre. Il m'intéressait, il m'amusait, lui dont je n'avais même pas prévu l'utilité dans le plan initial du livre. J'avais hâte de le retrouver d'un chapitre à l'autre. J'inventais à son intention des péripéties nouvelles. Jouisseur, amoral, sarcastique, violent, fourbe, calculateur, il errait d'un groupe à l'autre comme un semeur de maléfices au pas lourd et au regard huileux. Le plus clair de son temps se passait à pervertir des êtres faibles et désorientés qu'il abandonnait ensuite comme des emballages vidés de leur contenu. Avant la guerre de 14, il prenait du plaisir à suivre les cortèges de manifestants pour assister à leur dispersion par la police. Durant les premiers mois de la Révolution, il s'ingénia à jouer le rôle d'un agent double. J'eus beaucoup de peine à le faire mourir quelques pages avant la fin du troisième volume. Une plaque de marbre noir recouvre sa tombe dans le petit cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Tania Danoff, qui fut jadis victime de ses machinations, s'arrête devant le monument funèbre. Voici la scène. Elle voyait en imagination ce gros corps couché, cette barbe flétrie, cette bouche comblée de silence. Kizyakov n'était pas un cadavre comme les autres. Même dans la mort, il refusait de se plier à la loi commune. Même enterré, il faisait le pitre. Il y avait une sorte d'ostentation sinistre, de moquerie insolente dans la seule forme de son tombeau. Par cette croix trop grande, trop noire, trop neuve, il avait introduit le scandale jusque dans l'enceinte du cimetière. Si la survie était une notion valable, Kizyakov devait poursuivre dans cette colonie de trépassés son travail de perdition démoniaque. Tania l'évoquait dans ses fonctions nouvelles, ce géant épique et bavard, au cerveau bourré de farces, tourbillonnant, criant, rotant, sifflant dans ses doigts et crevant en cascade de rire. Mille visages éclaboussés se détournaient de lui. Des princesses, des officiers, des danseuses aux tutus rongés. Et il était là. Il se multipliait, se divisait, saluait, buvait de l'eau de pluie, mangeait de la terre et distribuait des bagues ornées de verres luisants. Si je devais réécrire mon livre, je crois que je ne tuerais pas Kizyakov. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il soit tout à fait mort. Avec lui, je me méfie des apparences. Un autre personnage, qui m'a échappé des mains et a choisi une voie très différente de celle que je lui avais assignée, est l'écrivain russe Malinov. Je l'avais présenté dans le premier volume comme un littérateur de salon, superficiel, prétentieux et sot. Il n'apparaissait que pour jouer à de rares occasions le rôle d'un repoussoir commis. Je regrettais même, par moments, de m'être encombré d'un pareil pantin. Pourtant, lorsque j'abordais la rédaction de Le Sac et la Cendre, je reconnus la nécessité d'expédier un correspondant sur le front de guerre en 1914. Immédiatement, je me rappelais Malinov et le chargeais de cette mission délicate. Ce premier contact avec le danger, la misère et la mort devait marquer mon personnage d'une manière aussi surprenante pour lui que pour moi. En racontant ses aventures en première ligne, je me sentis dans l'obligation de lui octroyer des réactions peu glorieuses, certes, mais dignes d'inspirer la pitié. D'autres épreuves lui furent réservées par la suite. Sous la poussée des événements, mon gaillard prenait conscience de 1000 problèmes graves qui, jadis, ne l'intéressaient qu'en tant que prétexte à des jeux littéraires faciles et rémunérateurs. Chaque coup du sort donnait une résonance nouvelle à son caractère. Il grandissait, cassait les lignes simplifiées de la caricature, s'élevait de malheur en malheur à une compréhension pathétique du monde. La guerre, la révolution, la mort d'une maîtresse, les déceptions politiques et sentimentales, la fuite en Crimée, Malinov avait cessé d'être pour moi un objet de moquerie. Et dans le troisième livre, ce fut avec une particulière tendresse que j'étudiais le cas de cet écrivain russe, parvenu à la pleine possession de ses moyens dans un pays d'accueil où il ne pouvait plus intéresser personne. C'était ici, à Paris, qu'il eût mérité le succès, et à Paris, nul ne se souciait de son existence. Il était victime d'une malice du destin qui lui avait distribué jadis des hommages dont il était indigne et qui lui refusait maintenant l'admiration à laquelle il avait droit. « En Russie, dit-il, j'étais considéré comme une gloire officielle de la littérature moderne. Depuis la Révolution, mon cerveau ne s'est pas modifié. Je n'écris pas plus mal. Même, j'estime avoir plus de talent qu'autrefois. Cependant, arraché à la multitude de compatriotes qui m'entouraient et faisaient mon succès, je suis devenu un zéro. Autrement dit, aux yeux du monde, nous n'avons de valeur que si nous exerçons notre métier dans les limites géographiques de la patrie. Qu'une révolution, une guerre ou tout autre accident nous chasse au-delà des frontières et nous perdons notre rang dans la hiérarchie humaine. L'homme seul est un mythe, un écrivain même très supérieur, s'il n'a pas derrière lui la masse vivante de la communauté nationale est voué à l'oubli. À notre époque, un génie privé de passeport n'est plus un génie. Un grand romancier russe, un grand philosophe russe résidant en France, c'est inconcevable. Je serais peut-être connu en France si je n'avais pas quitté la Russie. On traduirait mes livres en français si je n'habitais pas la France. Finalement, Malinov ira mourir en Russie, abattu comme un maraudeur, au moment où il tentait de franchir clandestinement la frontière. Si Malinov et Kizyakov ont dépassé mes prévisions, d'autres personnages, sur lesquels j'avais fondé un espoir sérieux, ne m'ont réservé que des déconvenus. Partis pour tenir un emploi de première grandeur, ils se sont montrés d'un tissu si sec, si terne, que je les ai très vite refoulés dans l'ombre. L'un, Philippe Savitch Bourine, s'est même suicidé à la page 90 du premier volume. En toute honnêteté, il ne méritait pas de vivre une page de plus. Toutefois, cette mort brutale, que j'avais décidée dans un mouvement d'humeur, se révéla d'une grande utilité par la suite. Elle me permit, notamment, d'expliquer l'obsession du fils de Philippe Savitch Bourine, Volodia, qui, de défaite, en vint lui-même à tenter de mettre fin à ses jours. Je vous raconte cela avec un peu trop de complaisance, peut-être, pour vous expliquer à quel point cette composition souple, élastique, tolérante, a facilité ma tâche. Bien entendu, il n'a pas été question pour moi de verser pêle-mêle dans un terrain vague tout ce qui me passait par la tête, mais en renonçant au système des directions préétablies, j'ai laissé à chaque protagoniste la possibilité de se développer librement, à charge pour moi plus tard de choisir dans la masse, de trier les événements et de resserrer l'ensemble. Au régime des ratures, tant que la terre durera, a rétréci d'un tiers entre sa première et sa dernière version. Des chapitres entiers ont sauté d'un coup de plume, des enfants nés au début du livre sont retournés au ciel sans même avoir fait risette au lecteur, des amoureux se sont vus frustrés de leurs étreintes, dont seul un brouillon informe garde encore le souvenir. Quant aux héros qui ont tenu bon, certains, tels Kizyakov et Malinov, ont été créés par moi de toutes pièces, d'autres sont le résultat de traits physiques et moraux empruntés à 10 modèles différents. Ennemi des personnages à clé, je n'en ai pas introduit un seul dans mon livre. En m'efforçant de peindre des êtres bien connus de moi, je me serais soumis aux contraintes intolérables de la ressemblance. Je n'aurais pas osé m'écarter de la vérité. Autrement dit, je serais allé à l'encontre de mon projet, qui était de composer en toute indépendance un livre d'imagination. Si je m'étais accordé une liberté totale dans la conduite de l'intrigue et la représentation des caractères, je ne voulais me permettre aucune fantaisie dans la peinture du pays et du temps que j'avais choisi d'évoquer. Ce pays et ce temps, je les avais connus surtout par ouï-dire. Il me fallait donc compléter les récits de mes parents par 1000 détails pittoresques auxquels on ne songe guère lorsqu'on raconte de vive voix un événement de son existence, et sans lesquels, pourtant, un roman apparaît comme une construction arbitraire et froide. Avant d'aborder la rédaction d'un chapitre, je l'imaginais dans son ensemble, dressais la liste des précisions qui m'étaient nécessaires et soumettais mon père et ma mère à un interrogatoire serré. Ce n'est pas sans un peu de nostalgie que je me rappelle ces soirées passées ensemble à la poursuite de très lointains souvenirs. J'encourageais mes parents à retourner vers un passé qui leur était cher. Je les suppliais de me ramener quelques perles de cette plongée dans le temps révolu. As-tu vraiment besoin de savoir la forme des robinets dans les lavabos de l'école où j'ai fait mes études ? Me demandait mon père d'un air soupçonneux. Je jurais que le détail avait pour moi une importance capitale. Eh bien, disait mon père, une gouttière d'étain faisait le tour de la pièce, les robinets étaient des tuyaux courts traversés d'une tige. Il suffisait de pousser la tige pour faire couler l'eau, mais l'eau s'arrêtait net dès qu'on relâchait la pression. Je notais avec fièvre cette indication en apparence banale. Je ne savais pas encore si je m'en servirais, mais j'éprouvais la nécessité de tout connaître du décor, de l'habillement, des habitudes de mes personnages pour pouvoir les faire évoluer à ma guise. Tiré du magasin de la mémoire, les anciennes robes de ma mère, fanées et charmantes, s'alignaient devant moi. Je revoyais ses coiffures successives. J'exigeais de savoir le nom des parfums en vogue à l'époque de ses 20 ans. Si l'un de mes héros décidait de se mettre en voyage, je ne pouvais le faire monter dans un wagon sans m'être préalablement renseigné sur la forme du compartiment, le système d'ouverture des fenêtres, la couleur et la coupe de l'uniforme des contrôleurs. Malgré leur bonne volonté inlassable, mes parents ne pouvaient pas répondre avec une égale compétence à toutes les questions que je leur posais. Pour établir toute la partie militaire de mon roman, je dus demander le secours d'un ancien colonel de l'armée russe qui avait organisé un musée de son régiment dans 2 chambres de bonne au 7e étage d'un immeuble parisien. Dans ces pièces basses de plafond, l'ex-officier tsariste, devenu spécialiste de la décoration au pochoir, avait accumulé une grande quantité de reliques disparates et poussiéreuses. Les murs du réduit était tapissé de photographies, de gravures et de certificats jaunis. Dans une sorte de cercueil en verre reposait l'uniforme noir à brandebourgs argent des hussards d'Alexandria et la toque de parade ornée de la tête de mort. Une épée et un revolver gisaient sur un coussin de velours râpé. Un autre coussin supportait des décorations à l'émail écaillé, au ruban flétri. Une paire de bottes vides enserrait les mollets d'un fantôme. Sur une table se voyait tout un escadron aux figurines découpées dans une feuille de contreplaqué. Pendu à un clou, près de la porte, un harnais aux morts luisants et aux courroies pourries achevait son service dans le respect et le délaissement. Et dans un coin de la chambre, au bout de sa rampe inclinée, un fanion noir saluait tristement la fenêtre ouverte sur les toits de Paris. Le maître des lieux, entièrement requis par les souvenirs de l'ancienne armée impériale, avait conservé tous les carnets de route des officiers de son régiment. Il me les prêta avec une bonne grâce parfaite. Ainsi, pour chaque jour de la guerre, pour chaque déplacement de troupes, pour chaque escarmouche, pour chaque bataille, j'eus sous les yeux plusieurs récits, souvent contradictoires, émanant de témoins également dignes de foi. L'un, épris d'exactitude, avait noté les événements d'une manière laconique. Un autre s'était laissé aller à son tempérament d'artiste pour décrire les paysages traversés, les visages entrevus. Un autre encore n'avait pas craint d'exprimer ses propres sentiments à l'occasion d'une parade ou d'un combat sans merci. J'utilisais ces témoignages avec une extrême prudence, soucieux avant toute chose de ne pas céder à la tentation de l'amplification romanesque. que les meilleurs pharmaciens de la ville étaient Ferrein et Keller et que, pour acheter un bijou de valeur, on pouvait, en toute confiance, s'adresser à la bijouterie Ovchinnikov sur le pont des Maréchaux. J'ai souvent rêvé sur ces pages grisâtres écrites à l'intention des touristes français d'autrefois. Elles m'invitaient à un voyage merveilleux que je ne pouvais entreprendre qu'en pensée. Elles s'appliquaient comme une grille d'adresses et d'horaires, de signes topographiques et de tarifs commerciaux sur le fond mouvant de mes souvenirs. Mais ma soif de contrôle ne s'arrêtait pas à ces renseignements passe-partout. Pour mieux imaginer les lieux de l'action, je recherchais des photographies susceptibles de m'aider dans la reconstitution du décor. Tous les journaux illustrés de l'époque défilèrent entre mes mains. J'étudiais à la loupe les images représentant des scènes ou des paysages de Russie. Je relevais les plus infimes détails de la composition. Par exemple, ayant à raconter l'assassinat du ministre Plévé par les terroristes, j'eus la chance de tomber sur des articles nécrologiques accompagnés de clichés pris aussitôt après l'attentat. Ainsi, je pus constater, sans risque d'erreur, que, ce jour-là, le ciel était clair et le pavé sec, qu'au moment de l'explosion de la bombe, un tramway tiré par des chevaux traversait le prospect Ismaïlovski et qu'à côté des restes informes de la victime gisait la bicyclette tordue de l'agent de police chargé d'accompagner la calèche officielle. Je n'eus de même aucune difficulté à placer mon héros, Nicolas Rapoff, à l'endroit d'où il pouvait le mieux assister à l'exécution de l'ennemi du peuple. Au bord du cliché se voyait l'enseigne de l'hôtel de Varsovie, thé et nourriture, Kudryavtsev propriétaire. Ce thé et nourriture, ce Kudryavtsev propriétaire, me comblait de joie. Le doute n'était plus possible, les objets eux-mêmes venaient au secours de mon imagination. 20 fois, 100 fois, j'ai connu au cours de mes recherches ces plaisirs de collectionneur maniaque. On était à l'époque de l'occupation allemande, les salles de la Bibliothèque nationale n'étaient pas chauffées, de rares clients, déguisés en explorateurs polaires, se penchaient, le nez rouge, les doigts gelés, sur des livres qui leur soufflaient un peu de bonheur au visage. Pour rentrer chez moi, je traversais un Paris aux rues mornes qui me paraissait moins vivant, moins présent que le Moscou et le Pétrograd d'autrefois. Ressusciter le passé, le danger d'une pareille entreprise est aisément concevable. Saisi par la fièvre de la documentation, le romancier risque d'étouffer son récit sous une accumulation de détails justes, amusants en eux-mêmes, mais sans rapport direct avec l'action. Il me fallut beaucoup de courage pour renoncer à exploiter toutes mes trouvailles. Autre chose, je m'étais promis, en commençant mon travail, de mêler l'histoire au roman, mais je me refusais énergiquement à écrire un roman historique. Dans mon esprit, chaque personnage du livre ne pouvait connaître qu'une petite part du grand drame dans lequel son pays se voyait engagé. Je m'astreignis donc à n'évoquer la guerre russo-japonaise, la guerre de 14, la Révolution, que par des scènes sans lien et telles que pouvaient les avoir vécues des témoins perdus dans la masse. Éliminant de ma distribution les généraux et les chefs de mouvements populaires, je donnais la préférence aux acteurs de moyenne importance. Je m'efforçais de ne jamais sacrifier leurs histoires à l'histoire, ou, plus exactement, de ne montrer l'histoire qu'à travers leurs histoires. Aujourd'hui, leurs histoires, pour moi, sont finies. J'ai eu beaucoup de chagrin, vous pouvez m'en croire, à me séparer de ce groupe d'hommes, de femmes et d'enfants qui m'ont accompagné pas à pas pendant 10 longues années. Souvent, je songe à reprendre dans un roman quelques-uns des personnages qui sont devenus mes amis. J'ai tant de choses encore à dire sur Tania, sur Michel, sur Nina, sur Boris. Sans préjuger de l'avenir, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler d'eux devant vous comme s'ils n'étaient pas déjà tout à fait retombés dans l'ombre.
C'était Les Grandes Conférences, les auteurs et leurs livres, Henri Troya pour « Tant que la Terre durera ». Première diffusion sur la chaîne nationale le 13 octobre 1952. Vous pourrez réécouter cette conférence en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.